Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché.
Bonjour à tous mes amis, bon dimanche pour aller faire le marché ensemble, le marché d'infos autour de ce monde de l'alimentation qui nous passionne, en tout cas ça me passionne, et si vous êtes là avec nous, vous aussi. Alors en deuxième partie d'émission, je vous révélerai quelle est la marque préféré des Français. C'est sorti à la fin du mois de mai sur les Telex, comme on disait il y a une vingtaine d'années. La marque préférée des Français, c'est une marque de l'agroalimentaire, donc une marque alimentaire. Et devant 1300 marques, on est assez fiers. C'est une marque française, vous en saurez plus tout à l'heure en deuxième demi-heure. Puis on terminera l'émission avec des glaces, des créations de glaces avec le chef pâtissier du Mandarin Oriental, celui qui travaille avec Thierry Marx et qui a pondu pour l'été, pour la grande chaleur, une série de glaces inédites. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à l'art. Quoi ? Vous me dites quoi ? À l'art culinaire ? Eh bien, pas seulement. L'art, le vrai, le beau, le pictural. Et puis, on y associera effectivement un peu d'art culinaire. Hein, ça marche bien ensemble avec ce qui se prépare à partir d'aujourd'hui, le festival Night Four. Night Four, oh, c'est beau, hein, ça, on s'y croirait, alors c'est très parisien. Hein, pour une fois, on sera bien à Paris dans un festival qui a vertu à être, à mon avis, plus européen, plus mondial. Mais il démarre à Paris avec nos invités. Je reçois ce matin en studio Marie Secret. Bonjour Marie.
Bonjour.
Marie Secret qui est la directrice artistique de Night Four.
Oui.
Night Four, ça veut dire que c'est le soir alors.
Hein, si ça peut être les deux.
Oh, enfin, tomber de la nuit.
Tomber de la nuit, comme ça peut être l'aube. Aussi.
D'accord. Ah ouais, d'accord. Eh
oui, c'est entre les deux.
The Dawn. Voilà. Oui. Et mon cher Stéphane Méjanès, qui est presque un habitué de l'émission, hein, c'est pas la première fois.
J'aimerais être plus souvent là, mon cher Vincent.
Stéphane Méjanès, on dit journaliste food. Moi, j'aime bien food. Hein, ça veut dire, en fait, tout ce qui touche à la cuisine et à l'alimentation.
Hein. C'est vrai que les Anglais sont plus efficaces pour synthétiser.
C'est ça. Ça synthétise choses. Un peu le monde de tout ce qui se mange. Et vous êtes un peu le rédacteur en chef, la plume et le conseil de ce festival.
Absolument, un duo parfait. Parce que
Marie, avec sa revue Octopus, elle est plus côté art graphique, art pictural. Et vous, Stéphane, vous êtes évidemment plus côté art culinaire.
Oui, hein, mais Octopus, c'est vraiment une revue qui mêle déjà l'art et la gastronomie.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a toujours, enfin Marie en parle mieux que moi, mais il y a toujours un produit à l'honneur par numéro.
Qu'on décortique.
Voilà, qu'on décortique sous toutes ses formes. Mmh. J'ai le plaisir d'écrire dans la revue depuis, pas tout à fait le début, mais presque.
Deuxième.
Bien. Eh ben, écoutez,
la deuxième collection.
On est en famille alors, pratiquement.
Oui, hein,
voilà. Et au téléphone, on a tout de suite passé en fait un petit coup de fil du côté de la Suisse au créateur de ce festival Nightfall, qui est Thomas Hugues. Alors attention, hein, quand je dis Thomas Hugues, vous dites « Ah bon, c'est notre copain, là, le journaliste de Public Sénat qui est passé par BFM ». Non. Thomas Hugues, c'est un Suisse pur jus et surtout quelqu'un qui travaille dans le monde de l'art depuis un bout de temps. Bonjour Thomas Hugues.
Bonjour, un Suisse pur jus, vous l'entendrez. Hein.
Bon, ça, c'est pas sûr, hein, avec le téléphone, on n'est jamais sûr, mais enfin, si vous le dites, on vous croit. Thomas Hugues, je vous ai demandé d'être avec nous ce dimanche matin, parce qu'on a besoin de savoir, en fait, Nightfall, on a compris que c'est donc un festival qui va mêler cuisine et art pictural, mais on voulait savoir comment est née dans votre tête l'idée de ce festival qui commence à Paris.
Alors c'était un développement, hein, depuis évidemment une passion enfantine pour la restauration,
ouais.
Car même sur Genève, on captait très bien les émissions de Joël Robuchon, Bon Appétit bien sûr, donc ça, c'est là que la graine a été plantée.
Donc vous êtes un...
Avec qui j'ai collaboré d'ailleurs dans le cadre de foire d'art que j'organise,
ouais,
à Genève.
Ouais.
On a depuis quelques années une activité intense dans le lieu de la gastronomie, pour nos clients, nos amateurs d'art, nos collectionneurs, nos galeristes.
D'accord. Ensuite, vous voulez dire que vous mêlez à tous vos événements la table, les arts de la table aux arts en général.
Voilà, exactement. Donc ça peut être des visites VIP, voilà, de cuisine. Ça peut être plus fort avec des très grands dîners au sein même des expositions où on est entouré d'art, dans des cas assez atypiques et assez géniaux. Mmh. Et ensuite, nous avons créé quelques restaurants éphémères, sur Genève. Mmh. On en a fait trois. D'ailleurs, vous parliez du Mandat Oriental. On a aussi collaboré avec eux sur Genève. Donc, des restaurants pop-up avec une scénographie artistique et un menu particulier, le temps de nos événements artistiques, si vous voulez. Et là, on a décidé ensemble avec avec Marie de passer à la vitesse supérieure et de créer vraiment un festival, voilà, sur plusieurs jours où il y a plusieurs de ces restaurants qui sont mis à l'honneur, oui. Où les chefs sont mis à l'honneur, ils sont considérés véritablement comme des artistes. C'est pour ça qu'on a créé des binômes artistes-chefs qui conçoivent d'un côté des plats-heures et puis de l'autre côté une scénographie ou une pose artistique dans le restaurant. Voilà.
Alors, ça me plaît bien. Dans les restaurants. Ça me plaît bien cette idée, c'est pour ça que je vous avais ce matin. Alors, je vais être franc avec vous, Thomas. Du côté du col de la Faucille, le réseau passe mal hein, pour redescendre sur Genève. Le son n'est pas génial. Si ça ne vous ennuie pas, je vais vous laisser continuer votre dimanche tranquille. On va passer la parole à Marie Secret, OK?
Oui, très bien. Merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous. On enchaîne immédiatement. Marie, en fait, Thomas Hugues vous a passé le témoin. Dites-nous en un mot... quelle forme ça va prendre ce festival? Parce qu'on dit festival, on s'attend à ce qu'il y ait des grandes scènes et ça. Non, c'est un festival qui se passe dans la rue et dans les établissements des chefs concernés.
Alors dans la rue, oui, parce que c'est un peu une sorte de promenade dans Paris où on va aller visiter des galeries et découvrir des œuvres et, et aller en restaurant pour aussi vivre une expérience sensorielle d'un plat signature d'un chef, hein, qu'il soit étoilé ou pas. Ils ont tous cette singularité d'être des passionnés de gastronomie et de pouvoir créer, parce qu'aujourd'hui je trouve que les chefs ont cette chance de création au niveau des plats. Ouais. Donc on trouvait assez intéressant de pouvoir justement proposer à cet artiste culinaire de se retrouver face à une œuvre d'art contemporain et de proposer son émotion, comment ça se passe au niveau d'un plat.
D'accord. Stéphane Méjanès, moi je ne veux pas rentrer dans les polémiques parce qu'on est assez champions quand on se met à parler, Stéphane et moi, de la cuisine en général. Moi j'estime que la cuisine est un artisanat d'art et non pas un art. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
On peut jouer sur les mots, effectivement. Pour moi il y a les deux, mais c'est pour ça que l'artisanat d'art, ça me va plutôt bien. Je pense que la cuisine, pour beaucoup de cuisiniers, c'est un mode d'expression surtout. Et l'art est
on se raconte hein, dans ce qu'on voilà. cuisine. Quoi.
On montre des choses de soi, on met ses tripes sur la table, voire plus. Et puis on crée aussi picturalement. Il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui ont cette sensibilité artistique dans les dressages.
L'image a pris une telle importance, il faut dire.
Et voilà. Et puis les réseaux sociaux ont favorisé cette émergence-là. Donc voilà, on est entre les deux. C'est un artisanat parce que c'est aussi un travail de la répétition, du geste,
la reproduction
midi et soir, de travailler des produits bruts. Et voilà, mais d'arriver à quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience sensorielle et artistique.
Alors au cours de l'émission, on va avoir plusieurs chefs, deux ou trois, chef et chef-e. Et on va commencer tout de suite avec une chef qui travaille dans un lieu d'art, hein, puisqu'elle est associée avec un musée parisien, le musée Nissim de Camondo. C'est Fanny Herpin qui est avec nous au téléphone. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Merci d'être là. Je disais, à tout seigneur, tout honneur, hein, puisqu'on parle d'art et de cuisine, il faut commencer dans un lieu d'art. Et je suppose que c'est assez inspirant pour vous qui êtes qui êtes passé par la galaxie Ducasse avant de voler de vos propres ailes. C'est assez inspirant d'être dans un lieu comme Camondo.
Ah oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que quand je suis arrivée au restaurant, moi, j'ai tout de suite été impressionnée par ce lieu. Et vraiment qui est chargé d'histoire et qui aujourd'hui m'aide, qui m'inspire pour la création de mes plats. C'est une chance hein, de pouvoir travailler dans un établissement comme ça en plein dans Paris.
Alors, quelle œuvre avez-vous choisi? Parce que ça se fait de concert évidemment avec l'organisation du festival. Quelle œuvre avez-vous choisi pour illustrer votre salle de restaurant, enfin?
Donc l'œuvre, ça s'appelle La Vénus ouverte.
Ouais.
Et l'artiste, elle s'appelle Jeanne Visserial.
Oui.
Ouais. Voilà, c'est une passionnée qui fait un travail vraiment incroyable. Et c'est l'œuvre que vous pourrez découvrir au Camondo, donc pendant 10 jours, du 27 juin au 7 juillet.
Oui, d'accord. Alors, vous êtes à partir de demain, vous êtes une Girondine, vous?
Et oui, c'est ça. Moi, je suis née à Bordeaux.
Oui, d'accord. Ah ben, c'est important, hein, parce qu'on sent cette petite pointe chantante, hein, cette petite pointe médocaine. Et qu'est-ce que vous avez imaginé comme plat pour accompagner, en fait, on va dire, pour être en couple avec cette œuvre choisie?
On va dire qu'il y a eu une vraie réflexion, une réflexion qui a duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Et la réflexion s'est faite autour de l'œuvre, mais aussi de l'artiste. Donc, le plat, il sera à découvrir au restaurant.
Ah, et c'est un mystère.
Je peux vous donner des petits indices.
Ah oui, oui, des clés.
Ça vous intéresse.
Oui, à un moment, alors, ouais, carrément.
On va rester sur une cuisine que je propose déjà. Donc, il y aura la gourmandise, de la finesse, de la douceur aussi.
Ah, de
et,
la douceur.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est un plat qui devrait éveiller plusieurs de vos sens.
Ah, oui, bon, là, en fait, vous avez tout dit, vous n'avez rien dit, hein, Fanny. Vous êtes très douée, comme langue de bois culinaire, là, vous avez fait fort.
Elle tisse bien, elle fait son job. Merci,
alors,
Fanny.
Dites-moi au moins quel sera le produit de base, poisson, viande, légumes, végé, c'est quoi?
Ce sera un poisson.
Un gros poisson.
Ah, plutôt un gros poisson, hein. On va dire que là, celui qu'on a reçu, il fait un peu plus de 12 kilos.
Ah.
Et c'est un poisson qui a été pêché à la ligne, vers La Rochelle.
D'accord, oui, alors c'est un poisson de saison, donc s'il fait 10-12 kilos, je vois à quoi ça peut ressembler. Et on dit souvent que le gras, c'est la vie, mais pour lui, ce n'est pas le cas.
Il est trop fort, ça.
On a une belle bête, quand même.
Une belle bestiole. Donc vous ferez dedans, vous taillerez des pavés, et vous la servirez comment?
Donc ça va être une cuisson douce. Cuisson douce, et en effet, on va utiliser toute la partie du poisson, donc la tête, les arêtes. Voilà, vous allez retrouver tout ça dans l'assiette sous différentes formes, avec différentes saveurs, différentes textures.
Ah, génial. Et derrière, si je puis me permettre, Fanny, parce que le temps court, évidemment, petite balade dans le parc Monceau qui jouxte le musée Camondo.
Exactement, tout à fait.
Sous ces marronniers qui doivent être superbes en ce moment. Grêle ne s'en mêle pas, voilà.
Non, ça devrait aller à partir de lundi, ça devrait aller mieux.
Merci beaucoup Fanny Herpin. Vous restez avec nous, mes chers amis. On est avec Marie Secret et Stéphane Méjanès pour égrener les merveilles de ce festival Nightfall qui se tient à Paris à partir de demain.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Dans Fergnaud fait le marché, ce matin, si vous étiez avec nous, vous le savez, un peu de beauté dans ce monde de brut, dont je fais partie, je dois le dire. Je peux être brutal parfois, mais c'est vrai, quand j'aime pas, je le dis. Alors, mes amis, ce matin, on s'occupe du festival Nightfall qui démarre demain à Paris pour 15 jours, c'est ça, Marie Secret ?
Jusqu'au 7 juillet.
Oui, c'est ça.
Du 27 juin, lundi,
jusqu'au 7 juillet. Hein. On est juste au bord, c'est le sprint final pour vous, et merci d'ailleurs d'être là ce dimanche, parce que je me doute que ça doit être dans les dernières lignes droites, en général, tous précipitent. Et en face de vous, vous qui êtes la directrice artistique de ce festival, il y a Stéphane Méjanès qui est journaliste culinaire et gastronomique et qui est un peu la caution, hein, on va dire la caution éditoriale sur le plan culinaire de ce festival. Alors Marie, je me posais une question en écoutant Fanny Herpin, la chef de Camondo. Je me disais, mais comment en fait vous avez fait le in-between, le lien entre les artistes et les chefs? Qui a choisi? Sont les artistes qui ont choisi les chefs? Sont les chefs qui ont choisi les artistes, les œuvres?
Alors au début, on voulait vraiment que ça soit les chefs qui choisissent les artistes, mais comme c'est le premier que ça a été en 6 mois à peu près, hein. On a démarré en janvier et février. Il a fallu faire des rencontres, des liens, et effectivement, Fanny Herpin, c'était une de tes présentations au niveau des chefs.
Il faut dire quand même, il ne faut pas oublier la brique galerie. C'est vraiment, on s'est appuyé sur les galeries.
Ça change de la brique à l'œuf.
Oui, absolument. Les galeries partenaires de Thomas pour les salons. Mm-hmm. Et c'est vraiment les galeries qui nous ont beaucoup aidés à faire ce lien entre les artistes et les chefs.
Oui, parce que tout ce festival s'articule autour de galeries et de restaurants, en fait. Hein. Les galeries prêtent une œuvre le temps du festival à un restaurant ou à un lieu de restauration.
Le but, c'est que le chef, normalement, choisisse une œuvre par rapport à la galerie avec laquelle ils sont mis en duo.
D'accord.
Choisisse une œuvre d'un des artistes qui est représenté par la galerie pour l'avoir en inspiration dans le restaurant. Et c'est aussi une manière de présenter l'art contemporain d'une manière complètement différente. Aussi.
Et d'envoyer aussi des gens qui viennent souvent au restaurant et pas souvent dans les galeries, vers les galeries d'art.
C'est un peu l'idée, un
festival off, quoi.
Hein. Voilà. Ça aussi notre coup, effectivement, les gens iront à la fois manger et et assister,
c'est pas un mal.
Visiter ouais. des galeries pour regarder des expositions.
C'est pas un mal, parce qu'on se nourrit aussi par les yeux, hein, c'est très important. Alors, avec nous au téléphone, une deuxième chef, oui, pour le prix d'une, on en a eu deux ce matin, c'est Amandine Chéniaud. Bonjour Amandine.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous en ce dimanche matin.
Avec plaisir.
Alors, Amandine, restaurant Pouliche à Paris, eh bien, parlez-nous de l'œuvre. Alors, c'est un artiste majeur, hein. Je crois que c'est Francis Picabia, dont vous avez une œuvre.
Exactement.
Vous pouvez nous en dire un mot ? Vous avez eu un coup de cœur ?
Oui, j'ai eu un coup de cœur, parce que déjà, c'est une œuvre avec un petit peu de couleur. J'avais envie de ramener quelque chose de coloré dans
oui.
le restaurant.
Oui.
Et c'est un œuvre, c'est un poisson, en fait.
Ah ben bah voilà, donc déjà, ça préparait le menu, en quelque sorte,
exactement.
Amandine.
Exactement, je trouvais que c'était quand même très évident. C'était, c'était tout tracé. Et donc, c'est une œuvre qui est pas très grande, hein, qui fait 30 sur 30, mm-hmm. Qui est assez sombre, et avec beaucoup d'effets de matière, notamment par rapport à l'eau du poisson.
Ah, vous voulez dire, c'est peint en pâte, quoi. Il y a des matières du médium.
On sent vraiment la pâte du peintre, on sent vraiment ces effets d'aplat de matière. Mmh. Et je trouve que assez logiquement, en fait, ça se transpose en cuisine à travers des jeux de purée, peut-être. Et ce côté un peu sombre, un peu noir de l'œuvre, on va le retranscrire avec une sauce à l'encre de sèche.
Ah ouais, vous avez carrément joué le jeu, Amandine Chéniaud, hein. C'est-à-dire que vous êtes partie de l'œuvre et vous êtes dire comment est-ce que je peux transposer, comment est-ce que je peux évoquer cette œuvre dans l'assiette.
Exactement, exactement. Je trouve que c'était tellement, c'était une occasion très, tellement évidente de jouer sur ces matières-là.
Ouais,
voilà, on n'a pas pu résister.
Mais ça me plaît bien, hein, parce que vous devez être sensible à cela, Marie Secret, parce que le fait de dire, ah ben on voit les pâtes, on voit les coups peut-être de couteau ou sur la toile, et le retranscrire avec des purées, avec des textures.
Je trouve ça magnifique.
Hein. Mmh. Ça fonctionne.
Je trouve vraiment intéressant, même l'analyse. L'analyse du chef devant son œuvre, et parce que l'œuvre, lorsque je l'ai vue en vrai, c'est un véritable petit bijou, donc je sais que l'assiette va être magnifique.
Mmh. Alors,
chaque chef, c'est vraiment emparé, a eu soit quelque chose d'assez frontal, un peu comme Amandine, effectivement, qui a tout de suite imaginé le plat en voyant l'œuvre. Puis d'autres, je pense, peut-être on le verra avec Christophe Pellet, ont une inspiration qui vient peut-être d'un peu plus loin, d'une émotion, d'une sensibilité, qui n'est pas forcément très pour très, enfin voilà, comment dire, souligner et être en rapport d'évidence avec le tableau ou la sculpture, mais juste quelque chose qui vient, comme une recette vient à un chef en croquant dans un fruit, dans un légume, et un souvenir qui remonte,
ou un paysage,
voilà.
Alors, si je comprends bien, si on fait un parallèle avec la création artistique picturale, Amandine, vous en êtes un peu à l'esquisse, là. Vous n'avez pas vraiment choisi encore l'assiette qui sera servie. Ça dépend aussi du marché, peut-être. Amandine, es-tu là ? Amandine est partie ?
Oui, je suis là, je suis là.
Bon, d'accord.
Oui, effectivement, on a les bases et ensuite on va voir en fonction de la pêche, hein, puisque là, on va partir sur un poisson. Donc on attend de voir les derniers moments, savoir qu'est-ce qu'on va avoir dans les filets de nos pêcheurs pour vraiment finaliser l'assiette.
Bon, c'était important, Stéphane, d'avoir un panel de chefs extrêmement différent sur le plan de l'expression culinaire, non ?
Oui, absolument. Avec Marie, on ne voulait pas être dans l'élitisme des ultra étoilés. On a la chance d'en avoir, on est très heureux, très fiers. On a 3, 2, 1, 0.
Je crois qu'Alain Passard est partie prenante de ce festival, non ?
Il a commencé à soutenir, il y a eu Alain Passard et Mauro Colagrico aussi.
D'accord, super.
Qui malheureusement n'a pas pu le faire cette année. Mais voilà, on a eu un retour quand même de chef étoilé et j'en suis très fière. Et le dernier, Guy Savoie, être arrivé, qui est un monsieur merveilleux. Donc c'est aussi des belles rencontres avec des fans, des hommes.
Il a des belles toiles,
la
Monnaie de Paris.
Bien,
hein, des belles œuvres.
Non, mais même Amandine aime l'art. Tous, ils ont quand même cet attrait à l'art. Donc il y a cette sensibilité et tout le discours qui va avec et toute la composition qu'ils vont faire dans leur plat. Pour leur plat signature, je pense qu'on va avoir de très très belles surprises et de très belles émotions au niveau de nos papilles.
Amandine, est-ce qu'il y a un dispositif de sécurité particulier avec des vigiles pour protéger la toile, une cloche en plexiglas, vous qui dormez sur place ?
Oui, il faudra me passer sur le corps pour arriver à
Ah non, 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 faites pas ça, parce que là, il va y avoir de la demande.
Mais je ne vous dirai pas, je vous dirai pas que c'est nos secrets de sécurité, parce que sinon, ce serait trop facile. Mais oui, oui, bien sûr, évidemment. On a pris nos précautions.
Ouais, j'imagine, hein, parce que la toile, la boîte petite.
Des assurances, des tas de. On a évidemment sécurisé tout ça.
Oui, des caméras. Ouais,
du coup, l'ingénierie, on n'en a pas beaucoup parlé, et l'organisation derrière. Mais ça demande évidemment des précautions particulières, parce que les galeristes sont enclins à demander quand même une sécurité.
Oui,
par exemple.
Mais là, on part. La personne qui a créé ce festival vient du milieu de l'art. Il a le salon d'art contemporain.
Il a cette expérience.
Art Genève, il a cette expérience. Et les galeries nous ont énormément aidés aussi. Donc, voilà.
Il n'y a aucune difficulté. On a eu un Buren à la Monnaie de Paris, donc un Picabia chez Amandine. Et puis, moi, c'est les plus connus.
Oui, puis il y a Johan Cretten. Il y a la marche au Weiss. Pablo Reynoso également. Non, il y a des très, très, très beaux noms.
Et puis,
Alain Mapondera aussi.
Chez
Mitterrand. Qui,
mais
chez
c'est vrai qu'il y a des chefs, et surtout dès qu'ils ont les moyens, dès qu'ils sont un petit peu installés, qui investissent dans l'art, qui investissent dans l'art moderne et dans l'art contemporain.
Beaucoup de gens investissent.
Malheureusement, par exemple, le Carré des Feuillants, qui maintenant est fermé, du Tournier, avait des toiles absolument superbes, et c'était un peu son trésor à Alain du Tournier. Donc voilà, cette connivence entre l'art et la cuisine, nous on en est très heureux. Merci Amandine Chéniaud d'avoir été avec nous ce matin.
Avec plaisir.
Dès qu'on saura exactement quel est le produit phare, il faut nous le dire, parce que l'encre de sèche, tout seul, ça nourrit pas quand même.
Faudra suivre sur les réseaux sociaux le compte Art Genève.
Exactement, alors. C'est ce qu'on fera. Merci Amandine. Merci à vous deux pour cette dernière ligne droite ici à Sud Radio, dans l'émission. Donc ça démarre demain, on le rappelle, demain lundi jusqu'au 7 juillet. Et c'est dans combien de restaurants à travers Paris ?
Il y a 12 restaurants, 12 galeries.
12 restaurants,
et
12 galeries.
Chefs, 12 artistes.
Voilà.
Plus un petit off ce soir, aujourd'hui même, pour lancer le festival. Et puis,
qu'est-ce que c'est le petit off ?
C'est le chef du Château Cheval Blanc qui va
Nicolas
Bouit, qui va faire quelques préparations.
On dit rien.
Et puis des rendez-vous aussi probablement avec des lectures, des conférences, notamment avec Ryoko Sekiguchi qu'on aime beaucoup. Et toi aussi.
Génial. Merci à vous deux d'être venus et bravo et longue vie à l'art, et à l'art culinaire accessoirement bien sûr. Allez, on se retrouve dans une minute pour parler d'un autre sujet, d'un sujet éminemment français puisque c'est la marque préférée des Français.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Allez mes amis, on quitte l'art pictural, l'art culinaire qu'on découvrait en première partie d'émission et on va s'occuper de l'art biscuitier. Oui, je vous l'annonçais, la marque préférée des Français. Eh bien, c'est une marque française de l'agroalimentaire. Alors j'ai dit l'indice maximal qui est la biscuiterie. La marque préférée des Français, par un sondage OpinionWay, c'est tombé fin mai, c'est la marque Saint-Michel. Vous savez, la galette Saint-Michel, mais aussi la Madeleine Saint-Michel. Mais voilà, la galette Saint-Michel, ça fait partie de l'enfance de beaucoup d'entre nous. Le palais également, le palais breton. Eh bien, sachez-le, c'est la marque préférée des Français. Vous devez le savoir puisque vous êtes Français. Si vous nous écoutez, c'est souvent, les Français en général. Allez, j'ai été tout de suite à Avranches cette semaine, rencontrer le PDG de la marque Saint-Michel et le directeur du marketing. Ils étaient fiers.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
Bonjour Bruno Rousseau. Alors, la marque Saint-Michel, de la biscuiterie Saint-Michel, qu'on connaît tous et depuis longtemps, d'ailleurs depuis combien de temps ?
Alors, notre marque Saint-Michel existe depuis 1905, depuis que le pâtissier Joseph Grelier à Saint-Michel Chef-Chef a lancé la célèbre galette Saint-Michel.
Alors, cette marque est arrivée devant... plus d'un millier de marques, tous secteurs confondus, comme étant la marque préférée des Français. C'est une reconnaissance inouïe.
Alors c'est effectivement une reconnaissance pour tout le travail des équipes Saint-Michel, pour tous les salariés de l'entreprise. Et c'est la reconnaissance d'un travail depuis toutes ces années, d'un produit bien fait, d'un produit populaire et de produits qui apportent du plaisir à tous nos consommateurs, petits et grands. C'est aussi des produits qu'on a tous en tête depuis notre plus tendre jeunesse, qu'on a connu chez nos grands-parents, qui eux-mêmes le connaissaient de leurs parents, puisque Joseph Grelier a lancé sa galette dès 1905. Et c'est une belle histoire aussi, parce que c'est vraiment une affaire de famille, puisque Joseph Grelier est pâtissier. a lancé la galette à Saint-Michel-Chef-Chef en 1905. Et sa femme est allée proposer cette galette. Donc il y a des illustrations de l'époque où on voit donc la livraison des galettes aux premières personnes qui venaient se baigner sur la côte et qui en même temps venaient...
C'était vraiment un boulanger, quoi, un boulanger de village.
Oui, c'était un pâtissier qui avait l'amour du travail bien fait. Et c'est le fait d'avoir fait connaître cette galette. Alors, dans toute l'histoire de cette galette, eh bien, avec l'arrivée des premiers trains, les gens pouvaient venir, donc pouvaient accéder à la côte et venaient se baigner. Et donc, la femme de Joseph Grelier, eh bien, avec sa charrette, venait livrer les galettes aux baigneurs et aux baigneuses de l'époque. C'était le début de l'accès à la plage. Et c'est comme ça que nos galettes ont été popularisées en France. Voilà, parce que ces personnes, quand elles rentraient dans leur ville, eh bien, elles avaient ce souvenir de ce bon produit qu'elles avaient.
Ou elles en remportaient, parce que ça voyage bien.
Voilà, et effectivement, la galette, c'est un produit historique qui permet de se conserver longtemps et d'avoir une qualité qu'on peut emmener loin. Et d'ailleurs, les marins, dans le passé, depuis toute l'époque historique, ont utilisé de la biscuiterie. Ça permettait d'emmener un produit qui pouvait se conserver, comme d'autres ingrédients, mais qui était sur d'autres modes de conservation.
Alors en face de vous, il y a Cédric Lunel qui est le directeur marketing. C'est du pain béni quand on est au marketing qu'une marque soit aussi forte et aimée. Hein, parce que cette affection, cet amour des Français, ça on peut pas l'acheter, quoi.
Tout à fait, c'est une fierté, comme le disait Bruno, pour toute l'équipe, pour toute l'entreprise. Et on est des passionnés, des amoureux des marques, donc travailler sur une marque aussi cotée, récompensée. Par ce prix marque préférée des Français, évidemment, c'est quelque chose qui nous honore et c'est surtout les consommateurs qui nous aiment.
Du point de vue marketing, Cédric, vous avez le droit, en quelque sorte, d'utiliser ce qu'on pourrait appeler un signe de qualité ou un label, qui est cette marque préférée des Français, pendant combien de temps ?
C'est pendant 2 ans. Donc là, on a été récompensé au mois de mai. Donc on met tout ça en œuvre sur nos communications internes, externes, puisque c'est aussi de l'attractivité aussi pour les gens qui souhaitent rejoindre l'entreprise familiale. Et puis auprès de nos clients, les consommateurs nous en parlent vraiment très bien. Ils ont plébiscité la marque vraiment pour la qualité des produits que nous fabriquons. C'est vraiment...
Et la constance ?
Et la constance, puisque on parle de transmission, il y a toute cette dimension historique depuis le lancement. On n'a jamais transigé sur la qualité de nos produits, et c'est ce qui est récompensé aujourd'hui. Et le fabriqué en France aussi, c'est hyper important, le côté local qui est plébiscité par les consommateurs.
Alors, Bruno Rousseau, on parle de fabriqué en France. Ça a vraiment du sens chez vous, hein, puisque tout est fait là, par des équipes dont vous connaissez chacun des membres. Combien de membres dans le personnel de Saint-Michel aujourd'hui ?
En fait, on est 1850 amoureux de la biscuiterie et de la pâtisserie Saint-Michel. Et c'est effectivement un travail d'équipe, mais un travail de transmission aussi, puisque nous avons la chance d'avoir des produits qui plaisent et qui font plaisir de plus en plus chaque année à la fois à nos consommateurs en France, en Europe.
Avec un gros turnover ou une fidélité à vos piliers de la marque ?
Ce que je peux dire, c'est que nos équipes sont fidèles. Et aujourd'hui, les équipes forment aussi leurs successeurs lorsqu'on prépare les gens aussi avant leur retraite. Et c'est vraiment un travail de transmission. Et c'est aussi surtout le travail de la pâte, la préparation de la pâte, qui nécessite, parce qu'on utilise des matières vivantes. Donc en fait, il faut être capable d'apprécier la pâte, la toucher. C'est aussi pourquoi sur toutes les équipes de préparation de la pâte, de pétrissage, de conduite des fours, beaucoup de nos équipes sont formées, mais sont des gens qui sont issus du métier, des métiers de bouche.
Des métiers de la pâtisserie et de la biscuiterie.
Voilà, des métiers de la cuisine aussi également. Quand on rencontre nos salariés, qu'on échange ensemble, chacun a une formation sur tout ce qui nécessite d'avoir une connaissance produit, en amont des lignes de fabrication, jusqu'à la cuisson. Les étapes sont hyper technique, c'est très important de faire attention à la qualité parce qu'on utilise de bons ingrédients, on veut fournir à nos clients un beau produit bien régulier et donc c'est très important de savoir les travailler ces matières parce qu'elles sont vivantes.
Mais l'humain est partout, hein, il faut le dire, parce que l'idée c'est quand même d'avoir un produit industriel mais de qualité artisanale, c'est-à-dire comparable à ce qui se ferait chez un bon biscuitier de village, hein, enfin de village ça n'existe plus d'ailleurs, les biscuitiers de village, mais en tout cas une spécialité certes à un échelon industriel mais avec des productions qui restent à taille humaine, hein, ce ne sont pas d'immenses robots qui font tout, l'homme est partout dans votre fabrique.
Alors, la femme et l'homme sont effectivement...
L'humain, hein, je voulais pas être sexiste.
Voilà, la femme et l'homme sont effectivement présents partout. Toutes nos équipes ont un rôle très important. Et ce rôle, il commence déjà par la sélection des matières premières.
Alors là, on y vient. Tiens, là, je plonge dans le cœur du sujet parce que moi, il y a un truc qui me fascine, cette fameuse galette. Hein, qui est quand même votre cœur de métier, votre cœur de produit, la galette Saint-Michel, elle n'a pas changé depuis 50 ans. Enfin, le goût, moi, pour autant qu'ils m'en souviennent dans mon enfance, on retrouve ce même goût et c'est cette adaptabilité avec des produits qui changent, hein, même si ce n'est quand même que du beurre, du sucre, des œufs et de la farine, avec un peu de sel, avec certainement un peu de poudre levante ou je ne sais pas, pour les palais par exemple, mais globalement, on retrouve un goût qui perdure à travers le temps.
Oui, mais ça fait partie de nos valeurs. L'ADN de Saint-Michel, c'est cette qualité de la biscuiterie et de la pâtisserie. Bien sûr, chaque année, nous apportons aussi des innovations. Nous apportons au marché entre 15 et 20 nouveautés. Certaines, maintenant, ont du chocolat, des cœurs de chocolat. Mais les recettes historiques, c'est ce qu'on appelle chez nous des piliers. Et ces recettes-là, eh bien, elles plaisent. Et notre devoir, c'est de continuer à transmettre cette qualité et de la maintenir comme nous l'avons fait dans le passé. Et pour les générations futures, c'est la signature du travail de tous les salariés de Saint-Michel.
Alors c'est vrai qu'avoir une marque comme Saint-Michel, ça facilite la vie, mais ça nous engage. Donc ça veut dire il faut qu'on s'engage à assurer cette qualité, cette constance, ne pas changer en tant que tel nos recettes, c'est aussi un challenge. Donc aujourd'hui, on est vraiment engagé par rapport à cette démarche, à maintenir cette qualité, à faire découvrir nos produits. Il est important aussi que la nouvelle génération connaisse. Donc les piliers historiques sont la galette, la madeleine, c'est exceptionnel, je trouve, dans l'histoire de la marque. Mais aujourd'hui, on doit aussi recruter les plus jeunes, recréer cette légende sur cette nouvelle génération, et ça va passer par les goûter. Donc aussi aujourd'hui, on a vraiment, à travers l'innovation, la nécessité et aussi le devoir d'aller recruter les enfants, les familles avec des enfants entre 3 et 18 ans, voilà, être inscrits au quotidien du goûter. Et pour ça, c'est aussi un virage, et c'est ce qui explique le bon résultat de marque préférée des Français. On a vraiment parlé à toutes les catégories d'âge. On est sorti premier auprès des moins de 25 ans, tout comme aux plus de 65 ans. Et c'est ce côté populaire qui est la mission première de la marque Saint-Michel, de faire des produits français bien faits, de les rendre populaires. Donc ça reflète vraiment tout ce travail.
Merci beaucoup messieurs de m'avoir reçu dans cette unité de production à Avranches, à côté du Mont-Saint-Michel. Je peux vous dire que j'ai visité le laboratoire où sont produits tous ces biscuits, c'est à taille humaine, hein. Ce ne sont pas d'immenses robots, ce ne sont pas des machines incroyables, il y a l'humain partout, même si les fours font 35 mètres et que pendant sa traversée, le biscuit, la galette va cuire, mais j'étais très étonné par une pièce, ce sont les rouleaux, pratiquement des rouleaux d'imprimerie, hein, troués de forme de galettes ou de palais et qui, au fur et à mesure, sur le tapis de pâte, vont former ces fameuses galettes Saint-Michel. La marque préférée des Français, je le rappelle, et pour 2 ans, eh bien voilà, ça laisse le temps de mettre le nez dans le beurre, comme on l'a fait d'ailleurs. Allez, on se retrouve dans une minute pour parler glace.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fernio fait le marché.
Nous, le côté un peu sucré, pâtissier, biscuitier, ça nous va bien le dimanche matin. On revient donc de la biscuiterie, on se dirige vers la pâtisserie. Et dans la pâtisserie, plus particulièrement les glaces, mais pas seulement, puisque je reçois ce matin, pour fermer cette émission, le chef pâtissier du Mandarin Oriental à Paris, un très bel hôtel, et c'est Adrien Bozzolo. Bonjour Adrien.
Bonjour Vincent.
Merci d'être avec nous. Alors, quand je dis Mandarin Oriental, les gens le savent ou pas.
C'est là qu'officie le chef Thierry Marx, hein, qui connaissent bien parce que c'est un chef qui fait beaucoup parler de lui et qui parle également beaucoup et avec beaucoup de sens en général. Hein. C'est un chef qui a une philosophie de vie en dehors de sa cuisine.
Exactement.
C'est inspirant pour un pâtissier qui travaille
très,
avec lui.
Très très inspirant, c'est vrai que sa manière de voir les choses sont forcément inspirantes.
Ouais, bon, mais c'est, ça c'est important. Alors je vous ai fait venir parce que vous avez mis à la veille de l'été, enfin non, au début de l'été, ça y est, on y est, au point toute une gamme de glaces créatives. C'est vrai que l'art de la glace, hein, elle est généralement dévolue et laissée aux glaciers. C'est dont c'est une des spécialités de la pâtisserie. Mais vous, ça vous a toujours parlé?
Ça m'a toujours parlé. C'est vrai que on est, enfin, j'ai toujours fait pratiquement du dessert à l'assiette. Mmh. Donc c'est vrai que qui dit dessert à l'assiette dit souvent glace ou sorbet. Donc j'en ai fait pratiquement toute ma carrière.
Ouais. Et vous aimez évidemment. Bon, ça fait sens au moment où les chaleurs arrivent. Et on a déjà subi des épisodes caniculaires et c'est pas fini malheureusement. Donc on se dit on a besoin de rafraîchir les convives, quoi.
Un peu, c'est ça. Donc du coup on a mis au point toute une gamme glacée. Donc, trois coupes, deux bâtonnets glacés, un tube glacé, une pâtisserie glacée, donc la tropézienne glacée. Mm-hmm. Donc voilà, histoire de plaire à tout le monde.
On va détailler un tout petit peu ça avant de rentrer, de mettre le nez dans la glace. On va parler un peu de vous, Adrien.
Ouais.
Alors, tout de suite, je vais casser la glace entre nous.
Okay.
parce que je vais poser une question qui gêne, hein, bien entendu. Y a-t-il dans les grands hôtels parisiens une mafia italo-lorraine, hein? Je pense à Angelo Musa, au Plaza. Je pense à Michel Bartosetti, au Georges V. Je pense à Nicolas Paciello, au Fouquet. Ce sont tous des Lorrains d'origine italienne comme vous-même.
C'est vrai. Je m'en suis rendu compte aussi.
Mais vous cooptez ou quoi? Enfin, vous.
Même pas. C'est.
C'est la mafia. C'est la mafia italo-lorraine. Il y a un truc. Non, ce qui est vrai, je le rappelle souvent, la Lorraine, grâce, et on en parlait d'ailleurs avec le patron de Saint-Michel, hein, puisqu'ils ont racheté la cloche Lorraine, la Madeleine de Commercy, hein, oui. Qui est maintenant est passée sous le giron de Saint-Michel.
La meilleure Madeleine au monde.
Ah, voilà. Alors là, ça se bat entre Liverdun et Commercy.
Moi,
mais
j'ai
bon.
Ma préférence pour Commercy quand même.
D'accord.
Je connais très bien les deux, et j'ai ouais. une petite préférence.
Bah voilà. Alors on est dans le cœur du sujet qui est que dans cette madeleine, il y a toute l'histoire de la pâtisserie lorraine, grâce à Stanislas Leszinski, duc de Lorraine et roi de Pologne, qui était un grand gourmand et dont le chef et le chef pâtissier, donc à l'époque c'était le même, a créé de nombreux gâteaux. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une école lorraine de la pâtisserie.
Peut-être. Puis c'est vrai qu'on a des bonnes écoles aussi là-bas. On a beaucoup de passionnés. Donc c'est vrai que en Lorraine, il y a beaucoup de maisons, bien sûr, mais on fait vite le tour. Et c'est vrai que si on veut passer par l'excellence, on doit venir à Paris.
Faut bouger, quoi.
C'est
faut
ça.
Bouger. Bon, alors, soyons clairs. Vous avez fait des maisons assez exceptionnelles. Hein. Vous êtes passé vraiment dans des très grandes maisons. Vous en donnez deux, trois, comme ça, qu'on se fasse
une idée. J'ai fait des belles maisons. Donc, j'ai fait à Nancy, Grand Hôtel de la Reine.
Ouais.
J'ai fait la maison dans le parc. Ensuite, je suis venu à Paris. Donc, j'ai fait Michel Rostand,
ouais.
Jean Le Doyen, la pâtisserie des rêves.
Ouais, ben bah voilà, tout va bien.
J'ai
hein.
fait la pyramide à Vienne et
ouais.
je suis revenu pour venir au Mandarin Oriental. Ça fait bientôt 5 ans et demi.
Ah, vous êtes passé de Contissini à Henri Roux. C'est un grand saut.
Je suis passé de Rostand à Henri Roux. Non, grand saut, mais très beau
voilà.
grand saut.
Et vous avez appris des choses à chaque fois. C'est ça qui est merveilleux.
À chaque fois, on apprend toujours.
Ouais. La pâtisserie, c'est quand même un art absolument sublime, surtout quand on le fait à ce niveau. Alors, le niveau, c'est le plus haut niveau parce que dans ces grands palaces parisiens, multi-étoilés, il faut que la pâtisserie soit à la hauteur du cadre,
ouais. hein,
et dans les palaces encore plus, et à la hauteur de la cuisine du chef. Et Thierry Marx, il est très exigeant.
C'est vrai, il est très très exigeant. Donc, comme dans tous les palaces parisiens, on essaye d'être au niveau, comme vous le disiez, du chef, de l'endroit, de notre clientèle aussi. Donc, on est en perpétuelle recherche
ouais,
de l'excellence.
Et questionnement, quoi. Ouais.
Exactement.
Alors,
toujours en question.
Là, vous répondez aux questions. Avant de passer aux glaces, les gens se disent, mais ils nous parlent des glaces, et en fait, ils parlent de tas d'autres choses. Mais oui, il y a tellement de choses à dire avec Adrien. En fait, vous avez un dessert signature,
oui.
Qui est un peu, d'ailleurs, le symbole de la pâtisserie, hein, qui est le Saint-Honoré.
Exactement. Donc, c'est vrai qu'on est situé rue Saint-Honoré.
Ouais, ouais.
Et tous les chefs pâtissiers du Mandarin avaient leur Saint-Honoré signature, et moi, j'ai le mien.
Donc, quand vous débarquez, en quelque sorte, c'est un peu une charge. On dit, il va falloir que tu trouves un Saint-Honoré à toi, mon gars.
Exactement, c'est ça. C'est la signature de l'hôtel et la signature du chef pâtissier. Donc, clairement, c'est la première pâtisserie que j'ai travaillée en arrivant là-bas.
Ouais.
J'ai dû mettre un bon 3 mois à la sortir, pour être sûr de sortir ce que je voulais. Et c'est devenu maintenant un incontournable de la maison. Alors, le client l'adore.
Le Saint-Honoré, soyons clairs, tout le monde le connaît. Pour faire simple, c'est évidemment, on va dire, en général, feuilletage et pâte à choux.
C'est ça.
Et deux crèmes. Hein, une crème soit chibouste, soit enfin en tout cas une crème aux œufs qui est sur le fond, et dessus on va y mettre une crème fouettée, sucrée ou non, vanillée ou non. Donc ça c'est la base. Le vôtre il est comment?
Alors le mien il est un petit peu particulier, donc je l'ai monté debout et j'ai voulu mettre en avant le feuilletage plutôt que les choux. Donc j'ai fait une arlette caramélisée qui prend un petit effet bois, donc pour mettre tout autour, faire la chape du Saint-Honoré. Et à l'intérieur j'ai mis un crémeux à la vanille de Madagascar, un praliné à la vanille, ensuite un caramel tendre pour le côté gourmand, une petite pâte à choux croustillante, et je termine avec le petit pochage de la crème chantilly. Mascarpone vanillé.
Bon, et la direction n'a pas à s'en plaindre, apparemment, ni
pas
les clients.
Non.
non, jusque-là. Bon, parlons de vos glaces, alors, parce qu'effectivement, il fait déjà chaud, l'été est là et bien engagé, malheureusement, avec le réchauffement climatique, mais du coup, on va bouffer des glaces. Ça, c'est clair, cet été.
C'est sûr. Bon.
Et même dans la haute restauration. Alors, donnez-moi deux ou trois de vos créations de cet été.
Alors du coup, on a fait trois coupes glacées différentes, donc une version Saint-Honoré, une chocolat coco et une framboise basilic. Donc ça, c'est trois coupes glacées.
J'aime bien ça.
Et ensuite, on a mis au point deux bâtonnets glacés, donc le premier café et chocolat lait noisette, et le deuxième 100% pistache. Et on a fait également un petit tube glacé façon un petit peu calipo, donc abricot verveine, et une pâtisserie glacée, donc la tropézienne.
Donc ce sont des desserts glacés plutôt que des glaces. Hein. Ce sont des gâteaux glacés. Enfin, toujours à l'assiette, du coup. Non, sauf les bâtonnets.
La tropézienne est à l'assiette et les coupes sont servies dans des coupes, tout simplement.
En fait, vous réinterprétez des recettes un petit peu éprouvées quand vous dites la tropézienne. Là encore, c'est un mélange brioche et crème. Comment elle est la glace, du coup, la glace tropézienne?
Alors, du coup, j'ai fait une brioche feuilletée. Je suis parti sur une brioche feuilletée qui est un petit peu plus gourmande et un peu plus caramélisée qu'une brioche classique.
Plus beurrée.
Et un petit peu plus beurrée, du coup. Et à l'intérieur, j'y ai mis une glace vanille et fleur d'oranger. Et à la minute, je viens pocher une petite crème chantilly tout autour.
Oui, parce que logiquement, la fleur d'oranger, elle vient parfumer la brioche.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Et là, je l'ai mis dans la crème. Voilà, puis avoir un petit côté gourmand et qui change un petit peu aussi la tropézienne classique.
Fraise basilic, par exemple, c'est comme fraise citron. C'est un super exhausteur de goût pour la fraise, le basilic. On a peur parce que le basilic, en général, rentre dans des pestos ou dans des préparations salées. En dessert, ça fonctionne formidablement.
Ça marche très, très bien. Mais pour le coup, c'est framboise basilic, c'est pas fraise.
Pardon,
c'est la même chose. L'accord est quasiment le même. Et c'est vrai que c'est ultra frais. Et j'ai à chaque fois travaillé sur des glaces bigou, donc elles sont coupées en deux. Et on a justement ce mélange bigou à chaque fois. Et j'y ajoute. Donc j'ai fait des fines meringues avec une poudre citron vert dessus, des fines feuilles de basilic nain, un coulis gourmand.
D'accord.
Beaucoup de choses. Adrien,
bon bah génial. En dehors du restaurant, des restaurants, puisque vous êtes chef exécutif, pâtissier, il y a au moins 3 ou 4 lieux de restauration au Mandarin. Est-ce qu'on peut passer et simplement acheter une glace passant? Il y aura un comptoir ou...
Alors il y a pas de comptoir, ce sera plus sur place. On peut venir prendre des bâtonnets glacés à emporter avec plaisir.
Génial.
Mais sinon c'est vrai que c'est plus sur place, c'est pas une offre qui se fait emporter. Mais toutes les après-midi, 7/7.
Bon, merci Adrien Bozzolo. Je vous souhaite d'avoir de la clientèle et notamment internationale de passage cet été par Paris. Paris en a besoin et l'hôtel aussi, j'imagine.
C'est sûr.
Voilà, les amis, c'est fini. La semaine prochaine, on se retrouve à la même heure pour notre émission Panorama de l'actualité de tout ce qui se mange. Vous en avez l'habitude. Après le journal En toute vérité d'Alexandre Devecchio avec ses invités. Et puis Nathalie Schreiner-Guirma aux commandes de C'est ça la France. À dimanche prochain pour faire le marché ensemble. Là aussi, vous en avez l'habitude sur Sud Radio.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.